Radio Kapi. Oh, Kapi. Les informations avec Babel Pongo Basimango.
Le 27 janvier 2026, cela fait un an, jour pour jour, que la ville de Goma est sous occupation de l'AFC 123 avec le soutien du Rwanda. Dans ce journal, en retour sur les faits, les différentes initiatives diplomatiques menées depuis et aussi la réaction du côté du prix Nobel de la paix de Denis Mukwege ainsi que ses pistes de solutions. Une tentative d'évasion tourne au drame lundi à nuit à la prison d'Ossio dans la Tchoupo. Six prisonniers ont perdu la vie à la suite de l'intervention des militaires commis à la garde de cette maison carcérale. Des enquêtes sont en cours. Ambiance particulière hier à Kinshasa. Dans plusieurs coins, une rareté de véhicules de transport en commun a été observée. Conséquence directe, de nombreux habitants ont été obligés de marcher à pied. À l'origine de cette situation, le contrôle routier annoncé par le gouverneur de la ville. Les intervenants dans l'émission Dialogue en Congolais de ce lundi ont débattu à ce propos. Vous le suivrez dans ce journal. Mais sachez d'abord que le chef de l'État séjourne dans la province du Kasaï central depuis hier. Félix Tshisekedi est allé notamment inaugurer certains ouvrages d'intérêt public. Mais hier, sur sa route, un accident de circulation a impliqué son cortège à Kananga, un chef-lieu du Kasaï central. L'incident s'est produit dans la commune rurale de Matamba, à 23 km du centre-ville, alors que le chef de l'État a emprunté l'axe routier Kananga-Kalambambouji peu après son arrivée dans la ville. Le président se rendait sur ce tronçon pour évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Pas de morts, seulement des blessés et des engins endommagés. André Katendenga la Mouloumé nous en dit plus.
L'incident a débuté par le renversement d'un véhicule de la division provinciale de la santé, provoquant un carambolage impliquant trois autres véhicules. Parmi ceux-ci figuraient les véhicules du sénateur Jean Tshisekedi, celui du directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements, ainsi que celui du directeur provincial de la Direction générale de migration. Un conducteur des taxis-moto a également connu l'accident. Selon des témoins sur place, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés sur l'ensemble des engins impliqués, ainsi qu'une dizaine de blessés. Aucune perte en vies humaines n'a toutefois été signalée. Les personnes blessées ont reçu le premier soin sur place avant d'être prises en charge par les services sanitaires compétents. Pour rappel, le chef de l'État séjourne à Kananga depuis ce lundi, où il va procéder à l'inauguration de l'université de Kananga. Kananga, André Katindenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Amis, bonjour. Il y a un an, jour pour jour, Goma basculé dans l'incertitude. Du 25 au 27 janvier 2025, les combats s'intensifient autour de la ville, marquant le début de l'une des pages les plus sombres de l'histoire du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon plusieurs chronologies établies, l'offensive de l'AFC 123 soutenue par le Rwanda s'est accélérée depuis le 25 janvier, aboutissant deux jours après à l'occupation de la ville le 27 janvier 2025. Retour sur les faits avec vous, Benjamin.
Tout a donc commencé le 25 janvier quand les attaques s'étaient multipliées autour de Goma, notamment dans les territoires de Nyiragongo. Des tirs d'artillerie lourde et des obus s'abattaient sur plusieurs quartiers, certains provenant des zones frontalières entre la RDC et le Rwanda. La situation se dégrade davantage la nuit du 26 au 27 janvier. La ville, déjà privée d'une grande partie de l'armée et de la police, subit des bombardements continus, causant des centaines de morts dans la ville. Au petit matin du 27 janvier, une partie de Goma est occupée, tandis que le nord-ouest reste encore tenu par les FRDC et les milices Wazalendo. Pendant ces temps, l'aéroport de Goma était déjà entre les mains de rebelles, mais inutilisable en raison de tous les enjeux militaires sur le tarmac. Dans les chaos, plusieurs acteurs humanitaires quittent précipitamment la ville. Les mouvements de panique affectent également les populations déjà fragilisées par des années de conflit. Aujourd'hui, aucune banque n'a rouvert, l'aéroport international de mer fermé, la cour d'appel et les juridictions associées ne fonctionnent toujours pas, aucune force légale, ni armée, ni police nationale, n'est opérationnelle en ville. Et la population, plus vulnérable que jamais, continue d'espérer une issue politique et sécuritaire durable. Pour rappel, l'occupation de Goma par l'AFC-M23 avait été accompagnée d'un impact humanitaire massif avec d'importants déplacements des populations et des mentalement par les rebelles, des dizaines de camps, des déplacés qui étaient tout autour.
Endossement d'occupation de Goma, plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées. Des engagements et des accords de paix ont également été signés entre le gouvernement congolais, l'AFC 123 et le Rwanda dans le cadre des processus de Doha et de Washington. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent et la paix se fait attendre au nord et au sud Kivu. Martial Papimukeba pour des détails.
Dans le cadre du processus de Doha, la RDC et l'AFC-M23 ont signé en juillet 2025 à Doha une déclaration des principes fixant des objectifs clés. Cessez-le-feu permanent, retour des déplacés, restauration de l'autorité de l'État et conclusion d'un accord de paix global. En octobre 2025, un mécanisme de vérification du cessez-le-feu a été mis en place suivi le 15 novembre 2025 de la signature d'un accord cadre à Doha pour encadrer la poursuite des négociations. Parallèlement, la RDC et le Rwanda ont engagé un dialogue bilatéral dans le cadre du processus de Washington. Depuis le 27 juin 2025, plusieurs accords ont été conclus, notamment sur la fin du soutien aux groupes armés, la coopération sécuritaire et économique, le respect de la souveraineté et la mise en place des mécanismes conjoints de suivi. Malgré ces avancées diplomatiques, les violations du cessez-le-feu se multiplient, les combats se poursuivent et la situation humanitaire demeure préoccupante. Au nord et au sud Kivu. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et une année après l'occupation de Goma, le communicateur du prix Nobel de la paix congolais, Denis Mukwege, continue de réclamer une combinaison de trois actions pour mettre fin à l'insécurité et rétablir l'intégrité territoriale de la RDC. Mario Somo Balama, qui s'est confié à Radio Okapi ce lundi, estime que les récentes ententes à Doha ou à Washington, par exemple, ne peuvent pas être la solution pour la République démocratique du Congo. Pour lui, les solutions efficaces ne peuvent être que l'application intégrale de la résolution 2773 de l'ONU adoptée l'année dernière, l'organisation de la conférence internationale sur la paix en RDC et enfin un dialogue national entre les Congolais eux-mêmes. Il explique pourquoi au micro de Dona Madimba.
Prenons le cas du processus de Washington. Le processus de Washington, l'accord qui a été signé à Washington, nous avait un tout petit peu éloigné de la résolution 2773. Pendant que dans la résolution 2673, on a reconnu le Rwanda comme agresseur de la RDC. On a intimé l'ordre, on a demandé au Rwanda, le RDF, et l'inverse, de quitter le territoire congolais. Mais dans l'accord de paix, on n'avait plus parlé de l'agression de la du Rwanda contre la RDC. Notre narratif a été changé et nous avions adopté le narratif rwandais qui avait dit que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Et pour que ces mesures défensives-là soient levées, nous devons d'abord, dans des opérations conjointes avec le RDF, neutraliser le AFDLR. Une fois neutralisé, c'est alors que la mesure-là sera levée. Vous voyez que ça pose problème. Nous appelons à l'unité nationale, au sursaut patriotique, pour que la résolution 2773 soit appliquée.
Nous quittons Goma donc pour l'Ituri. Des milliers d'habitants des communautés Ema et Lendu se sont retrouvés dimanche à Tsalaka, à près de 50 kilomètres au nord de Bunia, territoire de Djougou. C'est à l'occasion d'une rencontre sportive, une première depuis plus de 10 ans. Les leaders communautaires des deux parties ont échangé sur les défis sécuritaires qui persistent malgré la calmie observée depuis environ 3 mois. Cette initiative, portée par la jeunesse de l'OPA, vise à consolider la paix et la cohésion sociale dans cette entité territoriale. Isaac Raymond.
Cette rencontre a réuni plus de 5000 personnes ici des groupements de Loga, une entité Lendu, et de Lopa, une entité Hema. Elle est le fruit d'un long travail de sensibilisation mené par la jeunesse de Lopa, avec l'implication des chefs de secteur et des chefferies, des chefs de localité, des leaders de la jeunesse, ainsi que d'autres structures locales. L'objectif principal est de renforcer la cohésion sociale entre les deux communautés qui ne s'étaient pas retrouvées en grand nombre depuis 2015. Durant cette période, les contacts entre Hema et Lendu étaient rares et limités, notamment dans certaines carrières d'exploitation d'or ou dans quelques marchés. Cette rencontre a également permis d'analyser plusieurs défis sécuritaires, notamment la circulation nocturne et les mécanismes d'alerte précoce pour la promotion de la paix entre les deux communautés, explique le président de la jeunesse de l'OPA, Exupéry Mbatoma.
Tous les leaders étaient là, on a pu se partager. On a tant souffert, à peine 10 ans, avec les deux communautés. On devait s'améliorer. Il y a un temps court. Pour le moment, c'est toujours le temps de la pacification, puisque nous sommes fatigués. La guerre ne nous a ni produit. Au contraire, on a fait que régresser davantage.
Cette activité à laquelle ont également pris part les autorités militaires s'inscrit dans le cadre des efforts des FARDC visant à traquer les groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous sommes dans la Tchopo à présent. Une tentative d'évasion tourne au drame à la prison d'Osio, située à 17 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kisangani. Et six prisonniers ont perdu la vie à la suite de l'intervention des militaires commis à la garde de cette maison carcérale. L'incident s'est produit entre 1h et 2h du matin à local sous la pluie. C'était lundi. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour tenter d'élucider les circonstances de cet événement tragique. Explication avec vous, Jacques Moukonkole.
Pour tenter de réaliser leur rêve, les prisonniers ont creusé un trou dans un mur de la prison avant de se retrouver dans la cour. Selon des sources proches de cette maison carcérale, quelques détenus ont gagné ces lieux cherchant à s'évader. Ils se sont alors retrouvés nez à nez avec les militaires commis à la garde. Ceux-ci n'ont pas tardé à réagir, ils ont donc ouvert le feu. Bilan, 6 prisonniers tués sur les coups d'après la société civile Force Vive de Lubunga. Selon certaines sources de cette structure citoyenne, 14 ont réussi à s'échapper, tandis que 10 autres ont été repris et retournés dans l'établissement pénitentiaire. Quelques autorités se sont rendues sur les lieux pour essayer de comprendre les circonstances de ce drame. Rappelons que 2 jours auparavant, les prisonniers ont tenté cette aventure, mais sans succès. Disons enfin qu'avant cet événement, le nombre de prisonniers à Osio était de 75, tous condamnés par la justice. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le territoire de l'Uilou dans la province de Lomami bénéficie actuellement de plusieurs projets d'infrastructures majeures destinés à réduire son isolement. Parmi eux figure la réhabilitation du pont Kamutambayi, la construction de nouveaux ouvrages pour améliorer la connectivité avec le Lualaba, ainsi que le lancement la semaine dernière par le vice-gouverneur des travaux du pont Chibikosa à Luputa. Ces initiatives marquent une étape importante vers le désenclavement et le développement économique de la région. Esther Dalafina explique.
Le désenclavement du territoire de l'Uilou repose sur une stratégie du gouvernement central qui est celle de réhabiliter les infrastructures existantes et construire de nouveaux ponts pour relier les zones agricoles aux chefs-lieux et aux centres de consommation. Le lancement la semaine dernière par le vice-gouverneur Célestin Kayembe des travaux de construction du pont Chibikosa situé au PK18 de la cité de Luputa sur la route de Kachisungu a d'une part pour objectif de renforcer l'accès au chef-lieu du territoire et soutenir les activités économiques locales. D'autre part, la réhabilitation du pont Kamutambayi est saluée par la société civile car cette infrastructure routière relie la chefferie de Kachisungu au chef-lieu Luputa. Elle permet le rétablissement au flux des échanges agricoles et commerciaux après l'effondrement du pont causé par des intempéries. Le territoire de l'Uilou étant une zone agricole, les ponts et les routes permettent d'acheminer les produits vers les centres de consommation, raison pour laquelle le grand chef coutumier de Kachisungu, Augustin Kabwabat, demande aux populations locales de protéger les ouvrages car les projets du gouvernement central sont porteurs d'espoir pour une meilleure intégration économique et sociale. Esther Nalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Nous sommes au Congo central. La quasi-totalité des pharmacies de Matadi fonctionnent sans autorisation ni contrôle. Pour mettre fin à ce désordre longtemps entretenu par des services non habilités, une division provinciale de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à Corep vient d'être installée dans la ville. Lors de la cérémonie organisée le week-end dernier, le directeur général de la Corep, Christian Otumba, a souligné que l'implantation de cette structure au Congo central constitue un signal fort de la rigueur qui sera désormais appliquée dans l'inspection et le contrôle des établissements pharmaceutiques. Nana Plurich Mambou.
L'installation de la division provinciale de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à Corep était devenue une urgence et un impératif au Congo central afin de réguler les nombreuses irrégularités observées dans les secteurs. Christian Tumba, directeur général de l'institution, l'a rappelé dans son allocution au cours de la cérémonie.
La quasi-totalité des pharmacies de Matadi fonctionne sans autorisation. Seuls 7 établissements de distribution en gros sont autorisés sur les 23 existants. Un seul laboratoire de fabrication régulièrement autorisé sur les 3 qui sont opérationnels. Ces constats justifient pleinement l'implantation urgente de cette division provinciale.
À travers cette implantation, la Corep, qui détient l'exclusivité de la réglementation et de l'inspection pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national, entend désormais veiller au respect strict des procédures liées à l'authentification des autorisations d'importation des produits pharmaceutiques, à la conformité des conteneurs utilisés, au respect de la chaîne de froid et à l'identification de tous les établissements pharmaceutiques. Le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, présent à cette activité, a salué l'installation de ces nouveaux établissements publics régulateurs dans la province, tout en réaffirmant le soutien et l'accompagnement du gouvernement provincial à cette structure. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'industrie aurifère du Soudan a subi des graves revers après près de 3 ans de conflits armés. Les dégâts causés aux infrastructures et l'effondrement des relations commerciales a mis à mal l'industrie pourtant vitale pour le pays qui est à l'origine de l'un des principaux producteurs et exportateurs d'or d'Afrique. Le marché actuel est extrêmement difficile. C'est un coup dur pour le secteur aurifère, a expliqué Mohamed Al-Sawakni, directeur de l'association de l'industrie aurifère de l'État de la Mer Rouge. Les combats acharnés qui font rage dans une grande partie du pays ont gravement endommagé les infrastructures essentielles.
L'invité.
Ambiance particulière ce lundi à Kinshasa, dans plusieurs coins de la capitale. Une rareté de véhicules de transport en commun a été observée. Conséquence directe, de nombreux habitants ont opté pour la marche à pied. À l'origine de cette situation, le contrôle routier annoncé par le gouverneur de la ville. Ceci fait partie d'une série de mesures prises par le gouverneur de Kinshasa pour réguler la circulation dans cette ville. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce lundi ont débattu à propos de ces mesures. On les écoute au micro de Guy Maté.
Israël Moutala, vous êtes secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la ville et province de Kinshasa. On vient de suivre ce reportage de notre collègue Élise Kavira sur l'ambiance, n'est-ce pas, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Comment vous réagissez à cette situation qui a prévalu aujourd'hui dans la ville de Kinshasa?
Ma réaction, c'est une réaction d'une anomalie, d'une société qui a perdu les repères, d'une société dont la norme n'est plus respectée. Donc là, nous essayons de remettre la société dans la normalité. Nous sommes tristes pour les usagers de services publics et le transport en commun, parce que même les privés qui font le transport en commun, c'est une délégation de services publics, parce que c'est nous, en tant que pouvoir public, qui avions l'obligation d'assurer la mobilité de personnes et de leurs biens en leur fournissant de transport en commun de qualité. Et donc, il y a eu beaucoup de laisser-aller. On ne peut pas avoir un véhicule, le mettre sur la voie publique sans permis de conduire. Est-ce que ça peut appeler à débat? On ne peut pas prendre son véhicule et le mettre sur la chaussée sans assurance. Est-ce que ça peut appeler à débat? Avec les motos, avec l'explosion démographique, avec le charroi automobile qui a aujourd'hui plus d'un million de véhicules, 1,4 million à peu près, le nombre d'accidents. Mais mettez-vous à la place des victimes. Nous sommes pouvoir public. Nous avons l'obligation de protéger les vies humaines. Revenons aux fondamentaux. Un contrôle technique, c'est pour nous assurer que le véhicule qui sort peut conduire sans causer des dommages. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que voilà d'abord la norme. Est-ce que tout ça, est-ce que ça doit être contesté? Dites-nous un seul pays au monde où des gens ont des véhicules, ils n'ont pas de permis de conduire, ils ne font pas de contrôle technique, ils n'ont pas d'assurance. Et les gens se plaignent de ces mesures de bon sens.
Merci Jean Bosco Pouna, vous êtes coordonnateur de la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, DESC en sigle. Vous, comment vous réagissez à ces mesures prises pour réguler la circulation dans la ville de Kinshasa?
En suivant M. Israël, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, dans les principes des droits socio-économiques, les obligations réciproques. Les obligations réciproques, ça veut exactement dire que l'État, c'est les débiteurs d'obligations et la population, c'est les détenteurs de droits. Mais du côté de la population, eh bien, elle a également des obligations, elle a des devoirs. Je crois que avoir un permis de conduire, c'est un devoir pour l'utilisateur d'un véhicule. Faire les contrôles techniques, tout ça sont des obligations. Mais par contre, nous ne voyons pas véritablement les respects des obligations de l'État. Regardez, lorsque vous prenez, vous considérez simplement cette question d'embouteillage. Je suis en train de me demander comment le permis de conduire peut réduire les embouteillages à Kinshasa. Ça, c'est un problème. Vous prenez dans le programme du gouverneur, Kinshasa et Zobunga. Il a été clairement dit qu'on va améliorer la voirie, on va améliorer l'assainissement, on va prévenir les inondations. Mais lorsque nous essayons d'évaluer en tant que société civile, nous nous rendons compte que c'est un véritable échec parce que il n'y a pas forcément l'implication de la population.
Merci Apollinaire Salomon, vous êtes architecte. Vous, en tant qu'architecte, quelle est votre analyse par rapport à toutes ces mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement de la ville de Kinshasa pour réguler justement la circulation dans cette ville?
Ce qui est vrai, dans chaque pays où il y a des normes, il y a des règles, on doit respecter l'État. Mais quand on respecte l'État, il y a aussi ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Et surtout que certains éléments qu'on a évoqués ici, par exemple la vignette, c'est une taxe. Et une taxe est aussi liée à une sorte de contrepartie. Voilà. Et si aussi qu'il y a des mesures qu'une autorité donne, mais si ces mesures sont mal données, la population est aussi appelée parfois à révoquer ou à ne pas accepter certaines mesures. Ça, c'est légitime pour chaque population. Sur les routes, vous savez que nos routes sont dégradantes. Et on ne pourra pas dire que c'est avec un contrôle de routine que directement ces routes-là vont être réhabilitées. Je vous donne un exemple de Bongolo, entre rond-point Bongolo jusqu'à l'hôpital Bondeko. Je peux sortir avec ma voiture au contrôle technique et prendre cette tronçon de la route, directement je verrai les essieux sont dans les trous. Dites-moi alors, en ayant payé les contrôles techniques, ça a arrangé la chaussée? Pas du tout. Je crois qu'en amont, l'autorité étatique pouvait arranger en ayant demandé la redevance ou les choses en aval.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous pouvez retrouver l'intégralité du dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Jean-Claude Siala. Excellente journée.